au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
À Mythes et Complots spécial Jésus, on s'attarde à son histoire et on regarde des éléments historiques.
Voilà. Donc...
Jésus a-t-il existé? Les historiens s'entendent pour dire que peut-être que oui.
Ouais, c'est-à-dire que le consensus, l'hypothèse dominante, c'est qu'il y a eu un personnage dans cette Judée occupée par Rome au 1er siècle. Ce personnage, peut-être pas aussi important que, vous, que ne l'enseignent les évangiles.
Pas aussi important que les événements historiques.
Voilà. Ce personnage-là avait des gens autour de lui. Il a eu un enseignement, un message, un ministère. Il s'est visiblement mis à dos les autorités du Sanhédrin qui ont découlé éventuellement sur son arrestation et sa crucifixion. Donc là, les historiens, dans l'hypothèse dominante, on accepte la réalité de ce personnage historique. Évidemment, on tergiverse beaucoup sur l'importance qu'il a eue entre le Jésus des Évangiles et le Jésus de l'histoire. On a parlé juste avant la pause des tombes de Jésus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas certain. On navigue beaucoup dans le à peu près. Donc, on a une tombe dite officielle à Jérusalem qui se trouve à l'intérieur du Saint-Sépulcre, l'église du Saint-Sépulcre. C'est un petit édifice qu'on appelle l'édicule. C'est l'endroit que l'on dit de tradition où a été inhumé Jésus, qui était autrefois l'intérieur de cette tombe donnée par Joseph d'Arimathie à la famille de Jésus. Et c'est également ce même endroit qui, dès le 1er siècle, a fait l'objet d'une dévotion par les premiers chrétiens et où les Romains, éventuellement, ont construit un temple en hommage à Jupiter en espérant y chasser les chrétiens. Donc, cet endroit-là, c'est l'édicule qu'on trouve dans l'église du Saint-Sépulcre. Juste à l'extérieur de la vieille ville, il y a un endroit magnifique. Vraiment, là, c'est magnifique. Un beau jardin en fleurs, c'est grand. C'est un oasis de paix. Et au centre de cette oasis, de ce terrain, il y a une ancienne tombe chrétienne du 1er siècle qui ressemble étrangement à l'image que l'on se fait de la tombe de Jésus. Donc, c'est une niche, un trou creusé dans un hypogée, donc une tombe creusée à même le roc, une caverne que l'on a fait. Et il y avait une immense pierre circulaire qu'on plaçait devant.
Absolument, et ça, c'est ce qu'on enseigne dans le catéchisme.
Ouais. Donc, l'histoire de cette tombe, dite tombe du jardin, ressemble étrangement à l'image que l'on se fait de la tombe de Jésus, la description qu'en donnent les évangiles. Et il y a tout près un autre rocher avec trois trous qui ressemblent à un crâne. Est-ce que c'était ce rocher qui était le fameux Golgotha, qui veut dire rocher du crâne? Donc, il y a une incertitude ici. Et puis enfin, la troisième tombe sur laquelle on va se pencher un petit peu plus parce qu'elle a fait couler énormément d'encre, c'est la tombe de Talpiote. Alors, je te rappelle un peu ces événements parce que les gens vont sûrement y retrouver parce que ça fait partie d'une histoire récente, là, une sorte de controverse récente. Donc, on est d'abord en 1980. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. Lorsqu'il y a des travaux d'aménagement dans Jérusalem, il n'est pas rare de tomber sur d'anciennes tombes. Et c'est exactement ce qui va se produire. Il y a un groupe de promoteurs qui sont en train de travailler dans un quartier de Jérusalem qu'on appelle le quartier de Talpiote. Et voilà qu'ils tombe sur une tombe du 1er siècle. Alors, on entre à l'intérieur, c'est une tombe assez grande, donc l'hypogée, la caverne, est relativement grande et il y a de ces petites niches qu'on a parlé un peu plus tôt, les loculi. Et là, ce que l'on découvre là-dedans, c'est qu'il y a dans ces loculi, hein, ces petites niches, il y a 10 ossuaires, 10 boîtes en pierre dans lesquelles il y a des ossements. Sur ces 10 boîtes, 6 porte des noms. Donc, ces noms, je te les donne. Il y a Yeshua Bar Yosef, qui veut dire... Et là, c'est vraiment un graffiti, hein, parce que lorsque l'on plaçait les ossements dans ces boîtes, dans ces ossuaires, l'artiste, si on entend un artiste, pouvait prendre simplement un burin ou un clou, et c'était une sorte de graffiti qui était fait sur la petite boîte en question. Donc, il y en a une qui porte le nom de Yeshua Bar Yosef, qui veut dire Jésus, fils de Joseph. Une deuxième qui porte le nom de Marie. Un troisième qui s'appelle Yossa, qui est un diminutif de Joseph. Un quatrième qui s'appelle Mathieu. Une autre qui s'appelle Yahouba Ber Yosua, Judas, fils de Jésus. Et enfin, une dernière qui porte l'inscription Mara ou Mariamné, qui veut dire Marie-Madeleine. Ça tombe sous le sens ici. On a 10 ossuaires. 6 sont identifiés et sur les 6 identifiés, on ne peut pas se le cacher. On est ici en présence de noms qui ont une forte résonance avec les enseignements du Nouveau Testament.
Est-ce que c'est de cette découverte que Dan Brown s'est inspiré pour...
Non, pas lui. Mais un autre personnage a fait beaucoup parler de lui avec ça. Donc, la tombe, pour te dire rapidement, on trouve cette tombe, les gens qui travaillent, les ouvriers arrêtent les travaux, on appelle les autorités des antiquités israéliennes qui se rendent sur place, regarde, bon, OK, c'est là une tombe, on va récupérer les ossuaires qui seront transportés dans le dépôt des antiquités israéliennes. La tombe est refermée, tout simplement, avec une grande dalle de pierre, et on va construire le nouveau développement immobilier autour. Merci, bonsoir. On n'en parle plus. La tombe de Talpiot, malgré ses noms qui rappellent vaguement des personnages importants du Nouveau Testament.
Mais quand même.
Oui, mais on met ça de côté.
On met ça de côté. Pourquoi on met ça de côté comme ça? Là?
Ben, on met ça de côté parce que, et je vais revenir, laissons ça comme ça.
Parfait.
Okay? Bon, on est comme ça. Donc, on prend ces ossuaires, on les met au dépôt des antiquités israéliennes. Et puis, voilà, qu'il y a un type qui arrive au début des années 2000, un type qui s'appelle Simcha Jakubovici, qui est un Canadien, qui va faire une série télé qui s'appelle The Naked Archaeologist et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, en fait, l'histoire de Jésus, l'histoire des Hébreux. Et ce Simcha Jakubovici va ressortir cette histoire du tombeau de Talpiot et il va être appuyé par nul autre que Monsieur Titanic en personne, hein, James Cameron. Oui. Ils vont faire un documentaire qui s'appelle The Lost Tomb of Jesus, La tombe perdue de Jésus. Ils vont faire Jakubovici va écrire également un ouvrage. Et là, il se lance dans des spéculations, mais ridicules. Ils n'ont pas peur des hauts, ridicules, voulant que cette tombe soit la tombe de la famille de Jésus. Parce qu'il y a un Jésus, Joseph, Judas, fils de Jésus, Matthieu. Mais tout ça pour te dire, Jeff.
Gravé à la va-vite.
Mais tout ça, c'est de la. Et là, il va même jusqu'à. Dans le but de te convaincre de la réalité de son scénario, Jakubovici, dans son livre et dans le documentaire, dit même qu'ils ont raclé l'intérieur de l'ossuaire portant le nom de Jésus et l'ossuaire portant le nom de Mariamné, Marie-Madeleine, et qu'il démontre que par l'ADN mitochondrial, donc un ADN secondaire, moins précis que l'ADN nucléique, mais quand même un aspect d'ADN qu'on retrouve dans les mitochondries, il dit, je peux démontrer, preuve à l'appui, que Jésus n'était pas lié, il n'avait pas un lien de famille avec la Marie-Madeleine ou Marie-Amné du tombeau. Ouais, mais sur les 10 ossuaires qui étaient là, Marie-Amnée était peut-être la femme de Matthieu, était peut-être la femme de Joseph. Rien ne prouve que Jésus, tu sais, si Jakubovici veut jouer les Cupidons libres à lui, mais il y a rien qui dit que Marie-Madeleine et Jésus étaient émotivement liés entre eux. Il y a 10 autres ossuaires dans le tombeau, ouais, tu comprends? Et ce que j'ai fait, moi, je me suis posé également la même question que toi. On passe l'éponge, on oublie ça. Je me suis posé exactement cette question-là. Et alors que j'étais à Jérusalem, j'ai pu avoir une dérogation spéciale pour aller au département des antiquités israéliennes. J'ai rencontré des archéologues qui y travaillent et crois-moi qu'ils n'ont pas manqué d'épithètes pour décrire ce Jakubovici. J'ai eu entre mes mains les fameuses ossuaires en question, celui portant le nom de Jésus Marie-Amnée. Je les avais dans les mains. Là. Et ces gens-là étaient vraiment en colère de voir de quelle façon ce Jakubovici va falsifier l'histoire, va transgresser des règles simples. D'abord, il faut savoir que des Yeshua, des Jésus, si tu te promenais sur le marché public à Jérusalem et tu criais Jésus, il y a 50 personnes qui se seraient tournées derrière toi. C'est pareil pour Marie et Joseph. Des noms qui étaient excessivement communs. Sur l'ossuaire Marie-Amnée, donc Marie-Madeleine, Jakubovici, il lit ce qu'il veut parce qu'il y a seulement la lettre de M.A. qui est visible. Le reste, il n'y a rien.
Donc, c'est un documentaire sensationnaliste.
C'est un documentaire absolument sensationnaliste. Et les historiens, évidemment, disent, écoute, mais on nous fait passer pour des imbéciles. Nous, qui sommes les spécialistes de l'histoire de Jérusalem, on est des archéologues dont notre métier, c'est justement ça. On n'est pas des imbéciles.
Ils n'ont pas passé l'éponge pour rien.
Non, on a bien remarqué que ces noms-là, une coïncidence, c'était amusant. On avait des noms qui avaient une forte résonance avec le Nouveau Testament.
Parfait.
Mais il
n'y
avait rien là-dedans. Et ensuite, ils vont ajouter un élément que Jakubovici se garde bien de mentionner dans son livre et dans le documentaire, c'est qu'à cette époque, la filiation de lieu était plus importante que la filiation familiale. On le voit d'ailleurs dans la Bible. Lorsque Jésus sort, par exemple, du prétoire avec sa croix, on nous dit « Y voilà qu'il passait un homme, un certain Simon de Cyrène, qui a transporté la croix de Jésus. » On nous dit également que celui qui va donner son tombeau à la famille de Jésus, c'est Joseph d'Arimathie, Joseph de la ville d'Arimathie. Pharisiens. Jésus est souvent décrit comme Jésus le Nazaréen, Jésus oui. de Nazareth. Oui. Donc, la filiation de lui était plus importante. Donc, dans le cas de la famille de Jésus, par exemple, chaque année, il devait retourner à Jérusalem, à Nazareth, pas à Nazareth, pardon, mais à Nazareth, oui, à Nazareth, pour remplir les recensements. Le fameux tombeau de Talpiote avec ses ossuaires, si c'était s'agit vraiment de Jésus, on n'aurait pas écrit Jésus fils de Joseph sur l'ossuaire, on aurait écrit Jésus de Nazareth. C'était plus important de mentionner d'où venait le personnage que de faire son association filiale de cette manière-là. Alors, si les tombes dans la tombe de Talpiote, même si sur les 10 ossuaires découverts, 6 portaient des noms avec une forte résonance avec des noms que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, le fait que ces noms-là ne soient pas accompagnés d'une filiation de lieu nous prouve bien que cette famille était une famille originaire de Jérusalem. Or, Jésus était originaire de Nazareth. Donc, parfait. Ici, il faut complètement éclipser ça. Ça l'a fait un bon documentaire. Ça a fait un bon livre.
Ça a fait vendre
Jacobovici s'est fait connaître à travers le monde avec ça. Mais parfait. C'était malheureusement de la foutaise.
Revenons maintenant sur ces reliques. Le voile et le suaire.
Voilà, parce que évidemment, lorsque l'on parle de ce fameux tombeau de Talpiote, on parle des ossuaires, on parle des os à l'intérieur, et là, évidemment, ça nous amène à se questionner sur la question de la relique. Si on met de côté le tombeau de Talpiote, non, ce n'est pas l'ossuaire de Jésus. Et les os, il n'y avait plus d'os à l'intérieur, mais s'il y avait eu des os, ce n'aurait probablement pas été ceux de Jésus. Mais est-ce qu'on a des reliques qui sont associés au Christ? Il faut savoir que dans la culture de la relique, il y a 3 niveaux de reliques. Les reliques les plus importantes, tu l'as bien compris, ce sont des reliques qui sont associées directement avec Jésus, qui l'ont touché, qui ont fait partie de la vie de Jésus. Et là, on parle bien sûr de la croix. Hein? On a tous bien entendu parler des reliques de la croix. Les clous, la couronne d'épines, les vêtements de Jésus, ses sandales, des objets qui lui ont appartenu. C'est les reliques les plus recherchées. Les deuxièmes reliques sont par définition des reliques de la famille sainte, Joseph, Marie et les apôtres. Donc, ce sont les reliques qui sont les deuxièmes en importance. Et les troisièmes, ben, ce sont des reliques qui ont appartenu à des saints ou des martyrs. Donc, ce sont les 3 niveaux de reliques. Alors, quand on parle de Jésus, évidemment, la première relique qui nous vient en tête, parce que je pense que nos grands-parents avaient tous un petit bout de la vraie croix chez eux. Toutes les églises ont un petit bout de la vraie croix. Et là, ici, j'ai choisi spécifiquement de commencer cette description des reliques avec la croix, parce qu'il y a quelque chose ici qu'il faut bien faire comprendre aux auditeurs. On a l'impression que des gens m'ont dit à un moment donné, si on recueillait toutes les reliques de la Sainte Croix, de la vraie croix ensemble, c'est pas une croix qu'on aurait, c'est une forêt de croix qu'on aurait.
Oui.
C'est vrai, mais c'est mal comprendre l'idéologie, la philosophie religieuse du Moyen-Âge et de la Renaissance. À cette époque, on croyait une croix reste une croix en bois. La croix n'a pas d'importance. L'objet en bois lui-même est sans importance. Mais le fait qu'il ait touché le corps du Christ, cet objet-là était nimbé d'une espèce d'aura fantastique, merveilleux, surnaturel. Et cette aura, on l'appelait la virtus. Le morceau de bois, on s'en fout. C'est la virtus de l'objet. Et dans la culture du Moyen-Âge et de la Renaissance, si on prenait un objet qui avait la virtus, et on le mettait en contact avec un autre objet, généralement de même nature, la virtus se transférait. Presque comme, pas une épidémie, mais on a bien compris le principe, on passe de l'un à l'autre. Et mon deuxième bout de bois, mon morceau de bois vil, qui maintenant a été mis en contact avec un objet de bois qui avait la virtus, que l'on croyait peut-être être un morceau de la croix, mon morceau de bois vil devient aussi saint comme mon morceau de la vraie croix. Je n'ai plus un morceau de la vraie croix et une copie, j'ai 2 morceaux de la vraie croix, parce que les 2 morceaux ont la même virtus. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend comment on va multiplier les reliques. Bon, tu me diras que c'est une philosophie qui servait beaucoup l'Église, parce qu'on se permettait de reproduire à satiété des reliques. Et les reliques, c'était important, particulièrement les reliques du Christ, parce qu'elles attiraient des pèlerins. Les pèlerins faisaient des oboles dans les églises qui étaient visitées, notamment sur le chemin de Compostelle. Et évidemment, les reliques de Jésus étaient celles qui attiraient le plus.
Bon, et là, Christian, depuis tantôt, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai hâte de t'entendre parler du suaire de Turin.
Voilà.
Et on va s'arrêter 2 minutes au retour de la pause,
le suaire de Turin. Turin. Oui.